Merci beaucoup, très cher Alain. Moi, je suis très contente de vous retrouver ici dans cette grande semaine qui a été une quinzaine, qui deviendra un mois et qui finira par une année, je l'espère. Et on aura gagné quelque chose quand on arrêtera finalement de se dire que c'est à un moment donné. Mais l'idée de célébrer, bienvenue Madame la Présidente, ravie de vous retrouver Madame Hazan, Présidente de l'UNICEF, je disais que quand on aura gagné finalement ce temps collectif, commun et continu, alors il se sera passé quelque chose. Mais aujourd'hui, si je suis avec vous, c'est parce que vous avez réussi, par un engagement historique de long terme, à mettre la question des enfants dans leur pluralité, dans leur diversité, et ben au cœur de votre politique municipale, et de garder avec vous et parmi vous, en tout cas, beaucoup de femmes et quelques hommes pour qui je pèse mes mots, j'ai un très profond respect, une grande admiration. Je pense bien sûr à Armelle, la présidente du COFRAD. Je pense à Madame Hazan, la présidente évidemment de l'UNICEF. Je sais qu'il y a des représentants également de la NACEJ. Éric, pour qui c'est voilà, les dernières semaines d'un engagement et d'un mandat en tant que défenseur du droit des enfants absolument remarquable. Ça a été un des premiers à avoir un autre parcours, puisqu'il venait plutôt du monde de l'éducation. C'est un éducateur. Et je trouve que tout ça dit quelque chose de la volonté de bâtir, pour le coup, avec les enfants, pour eux, mais surtout avec eux. Et construire sa ville, c'est aussi mettre, mine de rien, l'enfant au cœur. Les enfants, parce qu'il y a différents âges. Et pour ça, vous avez effectivement, de ce que j'ai vu et ce qui fait que je suis là, grâce à Bruno et à Jessica, posé le clavim comme un acteur qui construit, qui bâtit, avec l'ensemble, évidemment, des associations mobilisées sur l'ensemble du territoire. Alors, il y a ce proverbe populaire qu'on connaît tous, il faut bien sûr tout un village pour faire grandir et pour élever un enfant. La réalité, c'est que c'est de plus en plus vrai. Et ces villages, ils sont de plus en plus éclatés parce que l'explosion du numérique et des écrans, et donc un virtuel qui prend énormément de place, parce qu'une solidarité familiale de plus en plus difficile, avec une métropolisation des emplois, donc on a moins de personnes autour de soi qui peuvent être là pour accompagner. On a aussi, mine de rien, une pluralité dans les familles, des familles monoparentales, avec un réel besoin d'accompagnement et de soutien plus spécifique. Plus de 20% aujourd'hui de nos familles françaises. Des familles qui se recomposent aussi avec d'autres besoins, des familles bien plurielles. Et donc, face à ça, les rapports aux solutions d'accueil, aux moyens de garde, à la qualité de cet accueil. Là, je pense vraiment aux 0-3 ans, puisque j'ai eu à négocier ce matin avec ma crèche, l'accueil de Jeanne étant un peu grognon cette semaine. Malheureusement, elle est un peu fatiguée. Mais se pose la question de l'autonomie de l'enfant, comment elle est encouragée, comment elle est portée, la question de l'insécurité qui n'a jamais été aussi préoccupante. C'est aussi pour ça qu'on voit que dans le dernier rapport de l'ADEME, et quand je parle d'insécurité, je pense au sens large, je pense bien sûr dans l'espace public, on a vu le recul du départ, pour le coup, seul à l'école. On est passé de 11 ans, de 9 ans à 11 ans aujourd'hui, en à peine quelques années. On a perdu 2 ans. En moins de 40 ans, on est passé de 4 heures à l'extérieur, dans l'espace vraiment public, à moins de 45 minutes par jour. Ces écarts illustrent quelque chose, en tout cas à mes yeux, qui pousse les enfants à être dans leur chambre, finalement à l'intérieur, parce que les espaces sont de moins en moins bienveillants vis-à-vis d'eux. Et peut-être parce que nous vivons une crise démographique, peut-être parce que nous avons oublié beaucoup trop, en tout cas beaucoup trop de monde a oublié, que les enfants sont des sujets de droit à part entière et que ce n'est pas que leur faire plaisir que de penser à eux. C'est aujourd'hui une obligation, bien sûr, par les engagements que nous avons pris au sein de la Convention internationale des droits de l'enfant, mais un devoir, et j'utilise très peu ce mot d'habitude, mais un devoir moral vis-à-vis de la société et de la cité qu'on bâtit et qu'on doit bâtir, pour le coup, avec eux. Des nouveaux défis et des nouveaux dangers, j'en parlais il y a quelques instants, la question du numérique, moi qui m'inquiète beaucoup, enfin, je ne veux pas vous mentir, parce que, mine de rien, on a bâti, en tout cas de plus en plus, une connaissance, une expertise pour lutter contre les violences, elles sont plurielles, mais les violences intrafamiliales, la maltraitance, la carence, les violences sexuelles qui explosent avec une libération, pour le coup, de plus en plus forte de la parole, même si moi j'ai la conviction qu'ils ont toujours parlé. Enfin, on n'a pas toujours la culture de l'écoute à la hauteur d'eux. Mais ce monde numérique, il apporte de nouveaux défis, des nouveaux dangers, de plein d'ordres différents. Nouveaux dangers parce que ben, nous, adultes, nous, parents, ben, on est moins équipés. En fait, c'est ça le sujet. C'est qu'on est moins équipés pour les accompagner et les former. Face à des géants, bien sûr, mais pas que. Face à des technologies qui bougent très vite. Et donc, parfois, plus vite que notre capacité à nous, eh bien, de trouver les outils. Et c'est pour ça que je crois, en tout cas, moi, je suis très sensible aux dernières positions au sein des instances même européennes. Hier, on saluait, pour le coup, ils allaient vers une majorité numérique, une responsabilité des plateformes vis-à-vis des plus vulnérables. On ne peut pas traiter la question de l'enfant comme on traite la question de l'adulte sur des plateformes. On ne le fait pas dans la vie réelle. Pourquoi on l'autoriserait dans la vie digitale ou virtuelle? On voit qu'ils sont, pour certains, à plus de 4, 5, 6, 7 heures par jour devant ces écrans, avec bien sûr des conséquences de santé, de développement assez majeures, d'addiction parfois. Et en même temps, l'interdire simplement n'est pas la seule et unique solution. C'est peut-être une condition, certainement, pour mieux protéger et porter la responsabilité. Mais ça ne suffira certainement pas. La question, c'est l'éducation. La question, c'est l'alternative, les alternatives qu'on bâtit pour eux, les alternatives qu'on permet de partager avec les parents, avec les fratries. Et donc, à quel moment on bâtit des solutions pour que ce ne soit pas une interdiction, une punition pour les enfants que de le dire, vous n'allez pas être dessus. Mais au contraire, on a mieux à vous proposer. On a du temps. Et ce temps, on le prendra pour vous. Et je crois, en tout cas, moi, ma conviction, parce que je viens du monde de l'éducation populaire, parce que je suis d'accord avec Alain quand il dit l'éducation, c'est l'éducation formelle, celle de l'éducation nationale, bien sûr, mais c'est aussi la coéducation avec la place des parents et celle des associations. Quand on parle d'éducation formelle et informelle et de tout ce continuum, on essaye de briser le continuum des violences. Alors, à quel moment on bâtit, on renforce ce continuum de l'éducation, en tout cas à mes yeux, formelle et informelle? Elle pose aujourd'hui la place d'une réponse peut-être plus forte du soutien à la parentalité, parce qu'on ne fait pas finalement sans ceux qui sont au quotidien à la maison auprès des parents. J'ai plein de choses à vous dire et évidemment je suis totalement sortie de mes notes, ce qui rend l'exercice encore plus ardu, mais dans le fond, quand on voit ces questions qui se posent aujourd'hui à nos enfants et plus largement aux enfants qui grandissent, il y a des inégalités extrêmement fortes entre eux. Armelle le sait, elle m'a fait rencontrer une jeune délégation de Mahorais. Moi, je n'ai jamais eu l'opportunité ni l'occasion d'aller pour le coup à Mayotte. Un peu plus dans les Outre-mer, Caraïbes, donc Martinique, Guadeloupe ou Guyane. Et déjà, on voyait les besoins plus spécifiques. Mais Mayotte, mais quelle urgence! Quelle urgence! Et encore, ce n'était que des paroles de témoignages, mais en direct. Et donc, quand on voit ces inégalités, on se dit comment, finalement, on donne aux jeunesses plurielles, aux enfances plurielles, les réponses absolument essentielles. Et ces jeunesses, elles posent, en tout cas, à mes yeux, elles nous posent un défi. Bâtir des villes à leur hauteur, parfois simplement bâties, parce que là, pour le coup, à Mayotte, on n'y est même pas, mais permettre aux enfants peut-être de plus se saisir des mobilités et des mobilités douces, de signalétique, de bâti pensé pour eux, et donc finalement de construire des villes où ils ont pleinement leur place et ils ne sont pas les accessoires, pour le coup, de leurs parents. Beaucoup trop aujourd'hui pensé comme ça. On voit que ces autonomies dans l'espace, pour le coup, public s'effondrent. Il y a un dernier rapport de l'OCDE qui montrait qu'en 1970, on avait à peu près 85% des enfants qui partaient seuls à l'école. Aujourd'hui, c'est pas énorme, hein, on est passé de 70 à 25, on est passé à 8% des enfants. 8, ouais, rapport de l'OCDE. Alors pour le coup, on n'est pas tout seul, hein, là c'est la France et les pays de l'OCDE, parce que c'est pas une statistique, mais ça dit un truc. C'est quand même un effondrement plein entier. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour se ressaisir? Et je pense que des engagements, des séances de travail aussi importantes que ce colloque, en tout cas, en sont particulièrement structurantes. Je ne serai pas beaucoup plus longue, mais je parlais de la question de la signalétique, je pense aux formations qu'on peut faire et que certaines communes, en tout cas d'Île-de-France, font avec la RATP, pour donner aussi les codes et les moyens, comme on le ferait dans le monde pour le coup numérique ou dans le monde du sport, qu'aux enfants de se saisir et de gagner aussi en autonomie. Je crois que ça va dans le bon sens. J'irai un tout petit peu plus loin parce que je pense qu'on peut être aussi ambitieux. Et moi, pour ceux qui me connaissent un peu, ils savent à quel point je tiens, en très bon français, à la gamification des politiques de prévention, c'est-à-dire utiliser le jeu. Réutiliser le jeu, on le fait aujourd'hui dans le cadre du BAFA, en particulier avec la spécialité jeu en grand air, mais j'ai l'intime conviction que face aux défis qu'ils ont à connaître et qu'ils auront à connaître, peut-être regamifier les apprentissages, repermettre aussi du temps, de divertissement, de créativité, d'imagination, et pas uniquement ce saut de responsabilité auxquels ils sont confrontés dans un monde de plus en plus dangereux, on peut le dire, et de plus en plus angoissant. Mais penser à eux, bâtir avec eux, c'est en réalité répondre, je pense, à une pluralité d'enjeux. Une qui me travaille aussi énormément en ce moment, c'est la question de la santé environnementale et des enfants. Ils sont les premiers à être et sensibles et victimes de cet ODD auquel nous avons le devoir de répondre. C'est One Health, on a un engagement extrêmement clair, mais nous avons les leviers. On a les leviers avec les classes, avec le bâti scolaire, les espaces qui sont faits pour eux. Et donc finalement, quand on s'attaque à la qualité de l'air, à la qualité de l'eau, mais aussi en réalité à la manière dont on bâtit les espaces qui sont faits pour eux, eh bien, on les protège et on leur donne un cadre sain et peut-être un peu plus serein. Question de la santé, pour le coup, physique, avec les espaces sportifs, mais aussi, je le disais tout à l'heure, les mobilités, tout simplement. Je ne serai pas plus long que ça, mais j'ai une conviction, c'est que les cultures urbaines, périurbaines ou rurales, elles peuvent se bâtir à hauteur d'enfants, si on le souhaite, si on leur donne vraiment la place de la participation, et si on se met à la hauteur de leurs paroles, alors dans le fond, je pense qu'on se sent plus que jamais utile. Merci beaucoup.